Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 24, du verset 1 au verset 8. Alors, ça pourrait sembler étonnant que j'invite toujours à ouvrir la parole de Dieu, mais je vous invite pas seulement à l'entendre, mais aussi à le faire, parce que vous savez, peut-être qu'un jour, il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas de projecteur, et... c'est pas évident de se rappeler tous les textes. Après, si vous y arrivez à connaître toute la Bible par cœur, je vous cite les références, vous me donnez le texte, moi je veux bien. Mais ô combien est précieux d'ouvrir la Bible et en même temps, peut-être parfois même de noter certains textes, de prendre le temps après d'y revenir et dire « Seigneur, voilà, parle encore à mon cœur ». Il n'y a pas un texte qui n'est tout livré et pour lequel on peut dire « j'ai plus besoin de le relire ». Je sais, parce que je peux vous dire, toutes les fois, moi, je suis encore époustouflé de la manière où Dieu encore se révèle et nous enseigne. Luc, chapitre 24, verset 1 au verset 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent. Mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent les visages vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, il nous dit le texte, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Si on analyse bien cette phrase, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est que ces deux femmes, elles se lèvent de bon matin et elles se rendent au sépulcre. Le jour d'avant, dans la ville, la règle était que tout était fermé. C'était le sabbat. Il n'y avait pas possibilité d'aller acheter. Il n'y avait pas possibilité de se promener, de préparer. Donc, toute cette préparation avait certainement amené ces femmes très tôt, peut-être même dans la nuit même, une fois que le sabbat était passé, à préparer, à s'organiser, à aller chercher ce qu'il fallait pour venir prendre soin du corps de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, moi j'aimerais bien qu'on fasse juste un petit récapitulatif, un petit point sur le déroulement des événements. Jésus est avec ses disciples et il est trahi par un homme qui lui avait été proche. Peut-être vous aussi. Jésus a été jugé injustement et livré à une justice sommaire et grotesque. Peut-être vous aussi. Jésus a connu le mépris, le rejet, la souffrance morale et physique. Peut-être vous aussi. Jésus a été crucifié à la croix, il est mort pour les péchés des hommes, pour les vôtres aussi. Amen. Lui qui n'avait jamais commis de péché s'est substitué à nous en payant notre dette et en nous rachetant à la condamnation éternelle en nous offrant le pardon suprême pour vous aussi. Quel bonheur! Mais quand on lit le texte comme ça, on passe souvent de côté en disant « Mais voilà, Jésus a vécu ça et ça. » Et peut-être il y a des choses qui sont aussi qui nous rappellent. Qu'est-ce que ça peut être douloureux d'être trahi, d'être jugé, d'être rejeté, d'être, parfois même malmené, moralement, physiquement. Et à quelque part, le Seigneur, il peut comprendre ce que nous vivons. Pour celui et celle qui passe par de telles situations, moi je me dis, c'est rassurant de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, peut me comprendre. Quelle grâce! Il n'est pas venu sur un chemin tout tracé, tout facile, tout simple. Non, il est venu et il a été, certes, il est resté pleinement Dieu, mais il a été aussi pleinement homme. Et en tant qu'homme, il a vécu les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes circonstances que nous pouvons vivre, nous tous, jour après jour. Mais le texte, il nous parle de quelque chose qui m'a interpellé, parce que je me suis dit, finalement, on voit cette histoire, Jésus est mort, Jésus à la croix, et là, il y a deux hommes qui viennent réclamer le corps de Jésus. Deux simples hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Le siècle dernier, lorsque je faisais mes études, j'ai eu... Oui, c'était les années 1900, donc là on est en 2023, c'est le siècle dernier. J'ai eu une prof dont le nom de famille était d'Arimathée. Et elle avait fait des recherches, et en effet, elle s'était vraiment intéressée à ça, et elle avait découvert que elle venait justement de cette famille d'Arimathée qui était à Jérusalem. Et quand on lit ce texte, on se dit, oui, il y a un certain monsieur d'Arimathée, il y a aussi un certain monsieur Nicodème, qui viennent et demandent le corps de Jésus. Dans des situations très compliquées, dans des moments de tension particuliers, je vous rappelle qu'il y avait quand même un conflit ouvert. Jérusalem était elle-même sous autorité romaine. Les Romains exerçaient un pouvoir qui était très autoritariste, très répressif. Les Juifs supportaient mal le fait d'être là sous autorité romaine. Ils attendaient un libérateur qui vienne les balayer de ce peuple qui était là pour occuper, pour juger et pour diriger leur nation. Plein de fois, Dieu a envoyé des libérateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont libérés du libérateur. Et une fois de plus, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu envoie le libérateur et eux, ils sont... libère, ils s'en débarrassent. En lisant ce texte, je me disais, ces hommes simples, n'ayant à cœur que de pouvoir honorer celui qui leur avait été révélé le Père. Ils n'ont pas regardé au danger qui courait en allant vers César, en demandant le corps de Jésus, parce que leur désir était d'honorer celui qui leur avait révélé le Père. N'ayant à l'esprit que de servir Dieu en prenant soin du corps du Fils de Dieu. Je ne sais pas si nous, on arrive à imaginer un instant tout ce qui a dû traverser leur pensée pendant ces heures, ces moments où ils se sont rendus auprès des autorités pour demander le corps de celui qui avait été jugé et que la foule avait jugé en disant « à mort, à mort ». Ils n'ont pas voulu écouter de raison. Et là, il y a deux hommes qui partent. Et ils vont demander quelque chose avec peut-être la boule au ventre, la peur eux-mêmes de passer encore par des épreuves, ne cherchant rien de plus que accomplir, peut-être même sans le savoir, la prophétie. Puisque Ésaïe 53, verset 9, il nous dit « On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence » et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Vous savez que la parole de Dieu nous donne des détails bien particuliers. En effet, le corps de Jésus va être déposé dans un tombeau qui n'avait jamais été utilisé. Seuls les riches pouvaient se permettre un tel luxe. Autrement, c'était une forme de location. Tu étais là pendant un temps, et après c'était quelqu'un d'autre, et après c'était quelqu'un d'autre. Mais là, il y avait quelque chose de réservé qui venait accomplir une prophétie, puisque c'était encore un point de plus qui indiquait qui était Jésus-Christ. Si là on voit deux simples hommes venir réclamer le corps de Jésus, nous retrouvons aussi deux simples femmes. Marie-Madeleine, et dit le texte, et l'autre Marie. Nous trouvons ça en Matthieu 28, verset 1. N'ayant à cœur que de pouvoir honorer le Maître. Elles se lèvent, elles se préparent. Et je pense avec une grande souffrance au fond de leur cœur. Ils ont vu leur Maître et Seigneur être mis à la croix. Ils l'ont vu être battu. Ils l'ont vu être crucifié. Ils l'ont vu souffrir. Ils l'ont vu donner son dernier souffle. Ils l'ont entendu crier « Abba, Père ». Ils l'ont entendu. Ils l'ont vu. Et là, revoir quelqu'un qu'on aime dans une situation de mort, c'est horrible. Et pourtant, elles ont du courage, elles y vont, n'ayant l'esprit que de servir le Fils de Dieu. Combien de fois nous pouvons nous-mêmes être appelés à faire des choses pour lesquelles on ne se sent pas forcément prêt. Mais on sent le fardeau. On n'est pas les meilleurs, ce n'est pas ça du tout. Mais on sent qu'on doit faire quelque chose parce que le Fils de Dieu attend de nous quelque chose. Ne cherchant rien de plus qu'à compléter de tout leur cœur l'embaumement d'un corps flagellé, meurtri, injustement. Je vous rappelle qu'à un moment, il y en a une qui viendra répondre sur le Seigneur un parfum de nard pur, dit la parole de Dieu. Et là, il y avait quelqu'un qui s'est mis un peu sur tous ses humeurs en disant on aurait pu le vendre pour les pauvres. Parfois, nos objectifs sont bien loin de la réalité de ce que nous disons. Mais là, ils viennent compléter quelque chose. Deux simples hommes, deux simples femmes. Et parole de Dieu dit en Ésaïe 53, verset 1 à 8, « Qui a cru à ce qui a été annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints ? En lisant cette histoire, moi-même, je me disais, Seigneur, c'est quand même incroyable, incroyable que celui que tu as envoyé, celui qui a marché parmi les foules, celui qui a été manifesté de l'amour, de la grâce aux malades, qui n'a pas eu honte de s'approcher de ceux qui étaient jugés, celui qui ne s'est pas posé de problème à se mettre à genoux, là, à côté d'une femme qui devait être lapidée et à vouloir, par ses paroles, par ses actes, lui sauver la vie, mais surtout sauver son âme. Seigneur, comment est-il possible que les hommes aient pu se comporter de telle manière ? Et parfois, on pourrait croire que la foi ou le fait de s'approcher de Dieu est réservé à certaines catégories, mais là, la preuve en est, c'était des simples hommes, des simples femmes, des personnes qui avaient eux-mêmes été au bénéfice de Jésus, de sa parole, de les vérités que Jésus avait pu prononcer. Si vous prenez Marie-Madeleine, non ? Et si on prend Nicodème, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Tu dois naître de nouveau. Finalement, il se rend compte que, certes, il pouvait aimer Dieu, mais encore, Dieu n'avait pas pris toute la place dans son cœur. Nous, on peut être là ce soir, peut-être on aime Dieu, peut-être vous aimez Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu quand vous étiez petit. Vous vous êtes soucié de jamais dire quelque chose qui pourrait offenser Dieu. Mais la réalité de la vie, c'est que le péché est là, il nous emboîte le pas, il nous amène finalement loin de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on a entendu parler de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a peut-être lu la Bible que pour autant nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance. On a besoin d'une réalité, d'une révélation de Christ dans notre cœur qui nous change, je dirais même instantanément. puisque la nouvelle naissance nous amène finalement à ne plus être comme avant. C'est d'un coup et d'un seul, excusez-moi de dire ça. Moi, je vois mal un enfant qui reste bloqué alors qu'il doit naître pendant des heures, non ? La tête est sortie, le corps reste. Vous imaginez la scène ? Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on dit à la maman ? Pousse ! Parce que ça ne peut pas rester comme ça entre deux situations, entre deux mondes, entre deux réalités. Mais ta vie aussi, elle a besoin finalement de sortir. Et je voudrais te dire, pousse ton âme vers le Seigneur ce soir. Ne reste pas assis dans un monde que tu te dis, oui, mais attends, il faut arriver à une telle hauteur spirituelle pour s'approcher de Dieu. Vous savez, parfois, on peut entendre quelqu'un prier, se dire, oh là là, moi jamais je pourrais prier comme cette personne. Elle a des paroles que moi, il me dépasse, mais regarde, de simples hommes vont chercher le corps de Jésus, de simples femmes partent et là, ils sont en chemin parce que finalement, elles ont eu une révélation. Ils ont cru en celui qui était le Fils de Dieu. Ils ont réalisé tout ce que le Seigneur avait fait pour eux et pour eux, ça ne pouvait pas se tourner comme ça, la page. Il m'est arrivé de devoir me rendre dans un cimetière. On fait une inhumation. Et une fois que l'inhumation est faite et que ce moment de douleur, je veux dire qu'on a fait cette cérémonie, mais pour chacun, il est temps, excusez-moi, d'avancer. On dit la vie continue. Et avec le temps, la douleur, certes, de l'absence de la personne, elle est là, mais la vie continue. Mais pour ces hommes, ces femmes, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe parce qu'ils n'arrivent pas à entrevoir un avenir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'avenir sans Jésus. Si on part sans le Seigneur, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien. Par contre, si ce n'est la souffrance éternelle. Mais il y a quelque chose qui va se passer là dans cette histoire et j'aimerais raisonner avec vous et peut-être dire Seigneur, délivre-nous de nos fausses pensées ou ce que nous avons pu acquérir avec le temps. Vous savez, là, elles sont en chemin, ces deux femmes, elles sont en chemin. Moi, j'imagine qu'elles n'ont pas dû parler. Hein. Elles devaient être certainement silencieuses. C'était très tôt. Et quand elles arrivent sur le sépulcre, verset 2, il dit, ils trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent et elles étaient en habits resplendissants et toutes craintives, elles baissent le visage vers la terre. Mais leur dire, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Elles étaient perplexes. Il y a de quoi être perplexe dans la vie, non ? Peut-être on s'est approché de Dieu, mais d'une manière religieuse. Et après, on ne comprend pas tout dans la Bible, on est perplexe. On se dit, mais pourquoi a été fait comme ci ? Pourquoi a été fait comme ça ? Il y a aussi l'éducation qu'on a pu recevoir. On sait que si on va dans un cimetière, imaginez si demain matin, pour une raison quelconque, on allait au cimetière et qu'on voyait des terres, les pierres rouler. Vous iriez plus loin ? Vous vous direz, attends, moi je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hein ? Il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce que ce qui est normal, c'est qu'une personne qui est morte, elle est enterrée, la pierre est roulée, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'elle-même, elle se disait, en chemin, qui nous roulera la pierre ? Parce qu'il fallait rentrer, embaumer le corps. Donc, les pauvres femmes, elles avaient d'autres problématiques dans leur tête. Elles arrivent et là, la pierre, elle est roulée. Les gardes, elles ne sont plus là. Elles rentrent et le corps de Jésus n'est plus là. Il y a de quoi être perplexe. Et là, d'un coup, il y a deux hommes qui sont avec des habits resplendissants et il dit le texte, toute craintive. Nous, on n'aurait pas été craintifs. Hein. Avec aplomb et certitude, on aurait dit, que faites-vous ici ? Non. Mais moi, je me dis quelle bonté Dieu a manifestée envers ces personnes, envers ces femmes, envers ces hommes, parce qu'ils avaient à cœur de prendre soin du Fils de Dieu. Vous savez, quand on a à cœur de nous approcher du Seigneur, Dieu manifeste son amour et aussi, comprenez bien le mot, ce n'est pas une gratitude humaine, mais sa réjouissance de voir que quelqu'un s'intéresse à son Fils. Si vous êtes là ce soir, j'espère que c'est parce que vous vous intéressez à Jésus, non ? Et tout à fait, Dieu veut nous révéler le Fils, puisque le Fils nous a révélé le Père. La volonté de Dieu, c'est que ces femmes puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Alors on pourrait dire, mais il aurait fallu peut-être le manifester aux religieux de ce temps. Vous imaginez si elles avaient eu tous une vision. On aimerait peut-être se dire, et si Dieu avait fait que Jésus rentrait dans la ville et ceux qui l'ont crucifié le voyaient, peut-être il serait tombé à genoux, repentant. Non, non. Parce que c'est en croyant du cœur que Dieu veut qu'on s'approche. C'est par la foi, c'est pas par ce qu'on voit. Mais nous, là encore une fois, ces femmes, elles voient des choses qui les mettent dans le doute, qui les mettent dans la crainte, qui les laissent dans la perplexité. Et là, il y a une question qui leur est posée. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Peut-être qu'encore aujourd'hui, certains cherchent la révélation de Jésus-Christ dans des choses mortes. Une religion qui est morte. Dans des actes simplement religieux qui sont morts sans sens. Au lieu de se dire, Seigneur, j'ai besoin d'une révélation de Jésus. Moi, je peux vous dire, si ce soir, quelqu'un voulait avoir une révélation de Christ, approchez-vous de Dieu. Ne vous inquiétez pas, il se révélera à vous. C'est son désir, c'est sa volonté. Je crois que le Seigneur souhaite et désire. Alors, en réfléchissant à tout ça, je me dis, ben, y a deux hommes qui viennent, qui cherchent à voir... de pouvoir récupérer le corps de Jésus. Il y a deux femmes qui viennent et qui s'occupent d'embaumer le corps du Seigneur. Ils sont partis pour cela. Alors, sur 11 disciples, pas un seul a été réclamé le corps de Jésus. Je me trompe ? Sur 11 disciples, pas un seul a été embaumé le corps du Maître. Sur 11 disciples, pas un seul s'est proposé d'accompagner les femmes qui allaient au sépulcre. Ça m'a interpellé tout ça. Je me dis, mais ils savaient qu'il y avait une pierre qui a été roulée. Et les femmes, elles se posaient certainement la question. Peut-être que les hommes, ils se sont dit, j'entends rien. Vous savez, il y en a qui ont du mal à se lever le matin. Il y en a parmi vous. Hein ? Et vous savez, si on se lève tôt, on voit des choses peut-être que les autres ne verront pas. Si on prend le temps tôt de nous approcher du Seigneur, on verra des choses peut-être que les autres ils ne voient plus. On a habité pendant 3 ans dans une grande ville où toute la journée, il y avait un brouhaha constant. Et une fois par semaine, j'avais une réunion de prière à 6h du matin avec les anciens de l'église et l'équipe pastorale. Et donc, je partais de chez moi vers 5h15 et j'entendais les oiseaux chanter. Mais c'était un concerto. Chose qu'on n'entendait pas tout le reste de la journée. Ce n'était pas possible. Comme si d'un coup, ils avaient plus le moyen d'exprimer. Mais pour moi, je le prenais comme un chant de louange, d'adoration à Dieu. Ils remerciaient Dieu. Je crois que la nature loue Dieu. Mais je n'aurais pas pu l'entendre si je me levais tard. Parfois, frères et sœurs, c'est vrai que se lever tôt, c'est un sacrifice. Mais je suis sûr aussi que Dieu sait comment nous parler d'une manière qui nous dépasse, qui nous interpelle. Nous pourrions, en effet, nous aussi très facilement pointer la lumière des chercheurs de boucs émissaires et ainsi nous sentir nous-mêmes dédouanés de toute éventuelle responsabilité en disant « Mais où étaient les 11 disciples ?» Hein ? On n'y était pas, nous, hein, si on avait été là. On aurait peut-être pris une part dans tout ce travail, dans toute cette œuvre. Mais suivons encore un moment avec attention le récit de notre lecture et vous verrez que nous tous, nous sommes encore aujourd'hui inscrits dans une histoire, non pas une histoire du passé morte et enterrée, mais dans une histoire qui continue de s'écrire en cet instant même. Verset 6, il dit « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » L'histoire de Jésus n'est pas finie. Hein. Le maître est toujours vivant. Hein. Amen. Ce n'est pas au cimetière qu'on va voir Jésus. Ce n'est pas dans un lieu où, excusez-moi, ça sent la mort. Il y a des fois des endroits dits « église » où ça sent la mort. Il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas la vie de la présence de Jésus dans le cœur, dans la vie. C'est religieux, c'est... Il y a un produit qu'on met dans les habits pour les préserver. Ça sent la naphtaline. Hein ? On conserve les choses. Mon grand-père faisait comme ça à ma mère. Un jour, je suis allé chez quelqu'un, il me présentait la Bible de son arrière-grand-mère qui n'a jamais été ouverte. C'était une relique. J'ai dit, vous avez jamais ouvert ? Ah non ! Certainement pas. J'ai dit, mais vous savez que le sens premier de la Bible, c'est qu'on la lise. C'est qu'on apprenne, qu'on comprenne et que nous puissions recevoir de la part de Dieu cette révélation. Et la révélation pour ces femmes, la révélation pour les hommes qui étaient là de ce siècle, la révélation pour les disciples, la révélation pour tous ceux qui avaient entendu Jésus prêcher le royaume de Dieu, c'est « il n'est pas ici, mais il est ressuscité ». Amen. Et ce message, il est aussi pour nous ce soir. Si vous pensiez venir vous installer, écouter juste un message, non, le Seigneur, il est vivant. On n'est pas là en train d'entretenir le souvenir de quelqu'un qui est mort. On est là pour partager l'espérance et le message de quelqu'un qui est vivant. Amen. Souvenez-vous, leur diront, de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il serait crucifié, qu'il ressusciterait le troisième jour. Et le texte nous dit, elles se souvinrent des paroles de Jésus. Waouh ! Il y a des choses parfois qu'on oublie. Non ? Ça vous arrive d'oublier ? Non. Hein ? On a tous une très grande mémoire. Moi, je me dis combien de fois on a pu dire au Seigneur certaines choses et on les a oubliées. Je partageais hier avec un frère et je lui disais comment le Seigneur m'a amené à rentrer dans le ministère et je lui parlais d'une prière que j'ai faite, mais je l'ai oubliée après. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'appelles, mais tu feras, tu m'amènes où tu veux, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié ma prière. Je suis passé à autre chose. Hein. Je l'ai fait avec tout mon cœur, c'était sincère. J'ai dit, Seigneur, voilà, si c'est vraiment toi qui m'appelles, moi, je ne veux pas devenir pasteur à la suite de mon père, derrière mon père, parce que mon père, il m'a nommé pasteur. Je dis, ça ne marche pas. Tu m'amènes où tu veux, comme tu veux. Et quand le Seigneur a conduit les choses pour qu'on arrive en France, moi, j'étais en crise. J'ai dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. En Italie, j'étais utile. Je suis là, dans l'Alsace, je ne parle pas l'alsacien. Je ne parle pas l'allemand. Je ne comprends pas ce que ces gens me disent parce que je parlais français, mais voilà, c'était un français vraiment basique. Hein. Comment allez-vous ? La baguette est bonne. Il a fallu tout apprendre et j'étais en crise parce que je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ici que tu me veux ? J'avais oublié ma prière. J'avais oublié l'engagement que j'avais voulu prendre avec le Seigneur. Et il a fallu qu'à un moment, le Seigneur me rappelle. Et je voudrais vous dire, il est temps aussi que vous puissiez peut-être dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-moi. Seigneur, ranime ma mémoire. ce que j'ai pu te dire cette nuit ou ce jour où je t'ai donné mon cœur. Seigneur, rappelle-moi ce que j'ai pris comme engagement quand j'étais à genoux à prier pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants. Seigneur, rappelle-moi ce que je t'ai dit, ce que j'ai promis, ce que j'ai pris comme engagement quant à telle ou telle situation. Seigneur, j'étais dans le danger et j'ai crié à toi. Seigneur, si tu me sauves, je te servirai. Le salut est venu, le service pas. Parce que parfois on oublie, on est oublieux, on met de côté, on se dit, mais le Seigneur comprend. Alors j'aimerais que nous puissions nous souvenir ensemble des paroles de Jésus, Luc chapitre 9, versets 22 à 26. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints. Amen. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? On peut se perdre. Hein, un jour, j'ai eu un homme qui est venu frapper à la porte du bureau de l'église et il me dit, bonjour monsieur, j'ai vu qu'on pouvait s'entretenir avec un pasteur et j'ai voulu frapper à votre porte, voilà, je me cherche. Et je le regarde, je lui dis, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes là, au bon endroit, et on va partager une histoire qui est bonne pour vous. Par contre, si en repartant, vous n'avez pas accepté celui qui peut être la boussole de votre vie, vous continuerez de vous chercher en vain. On a besoin par moment de prendre de vraies décisions. Et on peut se perdre et on peut même être nous-mêmes la source de notre ruine. Et après, on ne pourra pas s'en prendre à qui que ce soit. Hein. Ouais, Seigneur, tu comprends, 2023, c'était quand même pas évident de croire en Dieu. Pourquoi? Moi, je crois qu'en 2023, Dieu sauve toujours. Amen. Je crois qu'en 2023, Dieu fait encore des miracles. Je crois qu'en 2023, comme en 2024, pour les années qui restent jusqu'au retour de Christ, Dieu peut encore changer des cœurs et des âmes. Heureusement! Parce qu'autrement, ça veut dire que le monde se serait arrêté bien avant. Alors, comment je peux faire? Je suis peut-être un simple homme ou une simple femme. Et je voudrais te dire, heureusement. Cherche pas à te compliquer les choses. Cherche pas à compliquer la manière de t'approcher de Dieu. La parole de Dieu dira ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil et pleurez, et que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous savez, lorsque ces deux femmes ont entendu ces paroles, ont entendu qu'il fallait se rappeler du message de Jésus, souvenez-vous de ce que le Seigneur vous a dit. Il dit le texte dans un autre évangile qu'ils entendent quelqu'un appeler Marie. Mais avant Marie, elle croyait voir le jardinier. Ça ne devait pas être courant, le métier de jardinier, puisque les terrains étaient très arides et désertiques. Mais si vous lisez bien dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'à côté du lieu appelé Crâne, il y avait un jardin. Et là, elle voit un homme et elle pense que c'est le jardinier. Elle dit, dites-moi où est mon Seigneur, Marie, Rabouni. Moi, je crois qu'encore le Seigneur ce soir appelle quelqu'un. Il l'appelle au plus profond de son cœur. Il l'appelle dans son fort intérieur en lui disant, ce que tu entends, c'est pour toi. Et la parole de Dieu nous dit encore ce soir, approchez-vous de Dieu. Regardez, l'appel n'est pas fait à des gens parfaits parce qu'il n'y en a pas. Non ? On est tous imparfaits. S'il y a des personnes parfaites, dites-le, levez la main. On mettra une annonce parce que ça veut dire que vous êtes le seul sur la planète. Mais le texte dit, approchez-vous de Dieu, purifiez vos mains. Seigneur, je suis trop pécheur. Mais approche-toi du Seigneur et purifie tes mains. Demande au Seigneur de laver tes mains. Demande au Seigneur de laver ton cœur. Demande au Seigneur de te donner vraiment une direction. Arrête de jouer entre deux chaises. Arrête de jouer entre deux possibilités. Prends une décision. Ce soir, humilie-toi devant le Seigneur et dit le texte, et il t'élèvera. Vous savez, croire en Jésus, ce n'est pas une adhésion. C'est un changement de vie. Il m'est arrivé parfois de voir des personnes s'approcher ou donner à ce moment-là leur cœur au Seigneur. On dit, ah oui, 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 je donne mon cœur au Seigneur. Excusez-moi de dire ça, je pense personnellement que quand vraiment le Seigneur touche notre cœur, le sourire disparaît d'un coup. Il viendra après. Mais à l'instant T, on sent quand même qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ont besoin d'être abandonnées, laissées, des choses qui nous rendent honteux, des choses qui nous font sentir mal. Mais le fait de nous approcher du Seigneur, tout ce poids tombe. Ce n'est pas du savon qui va laver nos mains, c'est le sang de Christ. Ce n'est pas des paroles qui vont nous faire sentir mieux, c'est l'amour de Christ. Ce n'est pas de la psychanalyse ou toute autre forme de discipline qui pourra finalement apaiser notre âme, mais c'est la présence de Dieu en nous. Alors si quelqu'un ce soir avait besoin finalement de s'approcher du Seigneur et réaliser que Jésus est vivant, parce qu'il veut encore dans ta vie se manifester, lui, le vivant. Il est assis auprès du Père, dit la parole de Dieu. Et encore ce soir, il est prêt à agir dans ton cœur. On va fermer nos yeux quelques instants. Et ensemble, nous voulons demander encore au Seigneur de se manifester au cœur de tous ceux et celles qui encore n'ont pas eu peut-être cette occasion. Nous voulons demander encore au Seigneur ce soir de venir poser des jalons dans la vie. Demandez au Seigneur encore ce soir de faire quelque chose de particulier. Nous donner la compréhension. Nous donner finalement de saisir sa parole de manière personnelle. Seigneur, encore ce soir, si quelqu'un est en train de te demander dans son cœur de te révéler à lui, je sais que tu le feras, parce que Seigneur, tu es ce Dieu qui encore aujourd'hui manifeste sa grâce et sa miséricorde. Parce que tu es encore ce Sauveur qui aujourd'hui vient et qui pas seulement est prêt à pardonner, mais il est prêt aussi à guérir. Seigneur, tu veux être notre Sauveur, mais nous voulons aussi te dire, sois notre Seigneur, sois notre Maître, sois celui qui dirige nos cœurs, nos vies, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main pleine de compassion et de grâce sur notre cœur pour que nous puissions chacun, Seigneur, de nous, Seigneur, réaliser encore combien c'est bon, Seigneur, de nous approcher avec simplicité auprès de toi, non pas avec des grands discours, mais avec simplicité de cœur. Et une simple prière ce soir, une simple prière peut changer notre vie. Si quelqu'un ce soir voulait donner son cœur au Jésus, je voudrais vous inviter juste à répéter cette prière. Peut-être vous n'avez jamais osé prier, mais dites au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je viens à toi avec un cœur repentant. et j'implore ta grâce. Je cherche ta justice et je m'attends à ta miséricorde. Père éternel, fais de moi ton enfant et accorde-moi la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen.